Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier Patrick Barthet et remercier La Pulpe. Je suis très très heureuse de faire cette conférence ici. Dans le Haut-Vivarais, le Velay, parce que c'est une région que j'aime énormément. Et je suis très contente de pouvoir parler de mon sujet de recherche en sortant du cadre de mes collègues sinologues. Pour une raison très simple, c'est que Taïwan et dans une moindre mesure Hong Kong sont complètement occultés dans la presse française. Ça peut s'expliquer. Enfin, si je prends un point de comparaison, par exemple, Taïwan est un État de 23 millions d'habitants. C'est une puissance commerciale très importante. C'est le premier producteur au monde des composants qui rentrent dans la fabrication de tout le matériel informatique, etc. Je suis, moi, en tant que simple lectrice de la presse, beaucoup, beaucoup plus informée de ce qui se passe je ne sais pas, moi, au Sri Lanka, en Bulgarie, en Norvège, que je ne le serais sur Taïwan si je ne travaillais pas sur cette question. Alors, ça peut s'expliquer parce que Taïwan n'est pas un État reconnu, parce que la Chine revendique sa souveraineté sur Taïwan, donc il y a des effets d'autocensure qui se produisent, mais ce ne sont pas les seules raisons. C'est aussi parce que c'est un État qui ne pose guerre de problèmes, c'est pas un État. La population taïwanaise n'est pas une population victime. C'est un État riche, c'est un État démocratique. Donc on en parle tous les 4 ans quand il y a des élections présidentielles au suffrage universel direct, en s'étonnant qu'il puisse y avoir une démocratie en terre chinoise, ce qui est absurde évidemment. On en parle quand il y a des catastrophes naturelles, des tremblements de terre. Et bien sûr, moins on en parle, plus le coût d'entrée dans cette question est élevé. Parce qu'il y a un coût d'entrée. Il faut comprendre un peu ce qui se passe là-bas. Et c'est très difficile de le résumer en un petit paragraphe préliminaire. Donc, j'ai intitulé cette conférence « Nation et nationalisme en Chine ». Pourquoi ? Parce que la Chine, comme vous le savez aujourd'hui, est devenue la seconde économie mondiale. Et en fait, si elle est devenue la seconde économie mondiale, c'est en partie grâce au rôle qu'ont joué les marches insulaires de la Chine, c'est-à-dire Hong Kong et Taïwan, dans cette montée en puissance. La Chine post-maoïste, ce qu'on appelle la Chine des réformes, c'est nourri littéralement de l'expérience et des capitaux des Chines périphériques. Les Chines périphériques étant Taïwan, Hong Kong, Macao. Cette carte n'est pas très bonne, mais c'est juste pour que vous puissiez situer. Mais en même temps, le lancement des réformes dans cette Chine post-maoïste participe du projet de restauration de la Chine dans ses frontières impériales. Et donc, croissance économique en Chine et réunification nationale sont les deux principales sources de légitimité du Parti communiste chinois aujourd'hui. C'est ça qui fait tenir le Parti communiste chinois. Je voudrais commencer par une petite mise en perspective historique. Au lendemain de la première guerre de l'opium entre le Royaume-Uni et la Chine, entre 1839 et 1842, le traité de Nankin de 1842 va être le premier d'une longue série de traités qui, tout au long du XIXe siècle, vont aboutir à ce qu'on a appelé un démembrement, c'est le mot, un démembrement de l'Empire par les puissances impérialistes occidentales, c'est-à-dire le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Russie, etc., et japonaise. Et les empiétements à la souveraineté de la Chine vont être tout à la fois administratifs et juridiques, en particulier avec ce qu'on appelait les concessions dans les grandes métropoles chinoises, qui étaient des quartiers résidentiels pour étrangers qui étaient sous le contrôle de consuls étrangers, et des empiétements commerciaux et financiers, avec notamment la limitation des droits de douane et leur gestion par un personnel étranger. Et pour ce qui concerne les marches insulaires, les colonies de Hong Kong, Macao et Taïwan, elles sont toutes liées à une défaite de l'Empire face à ses impérialismes occidentaux et japonais au XIXe siècle. Le Royaume-Uni a obtenu en 1842 l'île de Hong Kong proprement dite, c'est la partie qui est en noir. En 1860, la péninsule de Kowloon, c'est la partie avec les petits points blancs. Et en 1898, la portion beaucoup plus vaste qu'on appelle les nouveaux territoires, qui représentent les 9 dixièmes de la colonie en termes de superficie. Mais cette portion-là, le Royaume-Uni ne l'a obtenue qu'à bail pendant 99 ans. Donc, le bail venait à expiration en 1997. Le Portugal, pour sa part, a obtenu en 1887 la cession à perpétuité de Macao. Macao, qui était déjà occupé depuis longtemps par des navigateurs, des pêcheurs portugais. Et le Japon, quant à lui, a obtenu Taïwan en 1895, à l'issue de la guerre sino-japonaise, dont l'enjeu n'était absolument pas Taïwan, mais le contrôle de la Corée. L'Empire est renversé par la révolution de 1911, menée par Sun Yat-sen, qui fonde l'année suivante, en 1912, la République de Chine et un parti politique, le parti nationaliste, le Kuomintang, en vue des élections qui ont été organisées en 1912-1913. Ce parti nationaliste Kuomintang existe toujours, je vous expliquerai, à Taïwan. C'est un des plus vieux partis au monde, c'est aussi un des partis les plus riches au monde. Après un intermède de restauration monarchique entre 1912-1916, puis de désagrégation du pouvoir central au profit de potentats locaux qu'on appelait les seigneurs de la guerre entre 1916 et 1927, et c'est d'ailleurs pendant cette période qu'a été fondé en 1921 le Parti communiste chinois, également un vieux parti aujourd'hui. Le régime nationaliste de Chiang Kai-shek est parvenu à s'imposer comme le seul régime légitime de la Chine à partir de 1927. Mais dès 1931, c'est l'invasion de la Mandchourie par le Japon, puis la guerre sino-japonaise, c'est-à-dire l'invasion de la Chine et le contrôle de parties entières de la Chine par les troupes japonaises. Pendant 8 ans, la guerre sino-japonaise a duré pendant 8 ans, de 1937 à 1945. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, la Chine était divisée entre un gouvernement de collaboration avec le pouvoir japonais, qui était reconnu par Vichy. Et c'est pendant cette Seconde Guerre mondiale que le système des traités a été aboli, mais la restitution des concessions s'est faite au profit de ce gouvernement pro-japonais. Et donc la Chine était partagée entre ce régime collaborateur et un régime, toujours le régime nationaliste de Chiang Kai-shek, qui s'était replié au fin fond de la province du Sichuan. Le régime nationaliste continuant, lui, d'être reconnu par les puissances interalliées, c'est-à-dire par Churchill, Roosevelt, Staline, De Gaulle. Donc, à ce titre, Chiang Kai-shek a participé aux grandes conférences interalliées, notamment à la conférence du Caire en 43, à la conférence de Potsdam en 45, et il a obtenu de Roosevelt, de Churchill et de Staline que, à l'issue de la guerre, la Chine fasse partie du concert des grandes puissances et donc ait un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, et que, une fois défait, le Japon restitue Taïwan à la Chine, et de fait, en août 1945, Taïwan est revenu sous souveraineté chinoise. Après la capitulation du Japon, le gouvernement de Chiang Kai-shek redevient le gouvernement légitime sur l'ensemble du territoire chinois, cette fois-ci, c'est-à-dire le continent et Taïwan. Mais dès 1946, la guerre civile avec les communistes reprend, qui se solde par la victoire des communistes sur le continent et la fondation de la République populaire de Chine le 1er octobre 1949. Or, bien que la révolution communiste, on l'oublie trop souvent, ait avant tout été une révolution nationaliste, elle n'a pas pu sceller la réunification nationale. D'une part, le régime communiste n'a pas pu étendre sa juridiction effective à l'île de Taïwan, car le régime nationaliste s'est replié sur l'île de Taïwan, où ont été déplacées les institutions de la République de Chine, ce qui a entraîné par là même une partition du territoire chinois entre le régime communiste qui contrôle le continent, le régime nationaliste qui contrôle toujours l'île de Taïwan. Et d'autre part, en 1949, ni Hong Kong ni Macao n'avaient été restitués à la Chine, c'était encore des colonies britanniques et portugaises. Or, la question du retour de Taïwan, de Hong Kong et de Macao, qui était vraiment centrale pour Mao Tse-Tung, cette question a été différée au lendemain de la victoire communiste en 1949, d'abord parce que l'heure était à la reconstruction du pays qui avait été décimé par ces 8 années de guerre sino-japonaise et les 4 ans de guerre civile, et surtout, cette partition de la Chine a été scellée par la communauté internationale lors de l'extension de la guerre froide à l'Asie, quand a éclaté la guerre de Corée en juin 1950. Je reviendrai là-dessus. Et donc, je vais expliquer comment, à la faveur de la normalisation sino-américaine de 1978 et du lancement concomitant des réformes en Chine, il y a eu reconstitution virtuelle de la nation chinoise dans ses frontières impériales. Les questions de Taïwan, de Hong Kong et de Macao sont devenues des questions intérieures chinoises dont toute tierce partie est exclue. Et comment le lancement des réformes en Chine a engendré une très forte intégration économique entre la Chine continentale et ses marches insulaires. Les industries hongkongaises et taïwanaises ont délocalisé l'essentiel de leur production sur le continent et elles ont contribué par là même à enclencher la réforme économique en Chine et donc la croissance chinoise. Mais pour autant, cet espace reste très fragmenté sur le plan politique. Non seulement une opposition démocratique s'est développée à Hong Kong, et l'actualité l'a montré dernièrement avec ce qu'on appelait la révolution des parapluies en septembre et octobre dernier, mais surtout, Taïwan demeure un État indépendant de fait et un régime qui répond à tous les critères d'une démocratie parlementaire contemporaine et d'un État de droit. Et donc, c'est toute cette complexité que je souhaiterais expliquer aujourd'hui. Donc, après la victoire communiste en 1949, le repli du régime nationaliste à Taïwan signe donc la partition de la Chine. Mais pour ce qui concerne la trajectoire politique taïwanaise elle-même, la césure clé, c'est pas tellement 1949, il y a 3 césures clés à cette époque-là, c'est 1945, 1947 et 1950. Première, 1945, donc, au lendemain de la capitulation du Japon, l'élite taïwanaise était tout à fait favorable à ce que Taïwan soit réunifié à la Chine. Mais tout en réclamant un très haut degré d'autonomie au sein de cette République de Chine. Alors, j'ai oublié de préciser que Taïwan avait été peuplé de colons chinois qui sont arrivés par vagues successives à partir du XVIe siècle, avec une toute petite minorité d'aborigènes austronésiens. Aujourd'hui, les aborigènes représentent moins de 2% de la population. Donc, en 1945, la population de Taïwan était ethniquement chinoise. Mais en raison de ce qui était appelé la nipponification, c'est-à-dire l'influence du Japon réelle ou supposée sur la population insulaire, ces revendications en faveur d'une très forte autonomie de Taïwan au sein de la République de Chine en 1945 ont été écartées par le gouvernement de Chiang Kai-shek, et le statut administratif de l'île a d'emblée été dérogatoire par rapport à celui de toutes les autres provinces de Chine. La province de Taïwan a été placée sous contrôle militaire. L'essentiel de l'administration de l'économie qui, hier, c'est-à-dire avant 1945, pendant 50 ans, pardon, entre 1895 et 1945, était aux mains des Japonais, est passé aux mains de Chinois dépêchés du continent. Et enfin, l'économie taïwanaise a été entièrement réorientée au service de la guerre civile en Chine, qui a très vite repris entre nationalistes et communistes, une guerre civile qui ne concernait absolument pas cette population taïwanaise qui avait été coupée du continent pendant 50 ans. La deuxième césure clé se situe en 1947. Il faut dire que cette administration dépêchée du continent était dépourvue de moyens. Parce que, encore une fois, la Chine avait été en guerre, depuis 1938, voire 1931 si on prend l'invasion de la Mandchourie. Dépourvue de moyens, fortement corrompue et extrêmement méprisante vis-à-vis de la population taïwanaise qu'elle considérait comme une population semi-japonaise. Et donc, dans ce contexte, en février et mars 1947, la population insulaire s'est soulevée contre cette bureaucratie corrompue, un soulèvement qui s'est soldé par l'envoi de la troupe du continent, et le soulèvement a été écrasé dans le sang et il a fait plusieurs dizaines de milliers de victimes. Or, alors qu'il était absolument avéré, et des rapports allaient en ce sens, que les communistes n'avaient joué aucun rôle dans ce soulèvement, en tout cas, ils n'étaient pas à l'origine de ce soulèvement, il y avait très peu de communistes à Taïwan, Chiang Kai-shek a aussitôt imposé une lecture opposée, il a fait précisément de l'activité communiste la cause du soulèvement. Et ceci afin d'exporter, en quelque sorte, la guerre civile à Taïwan, de greffer à Taïwan le problème communiste pour que Taïwan devienne le réceptacle de la débâcle nationaliste. Quand je dis nationaliste, c'est du parti nationaliste, du Kuomintang. Le réceptacle de la débâcle nationaliste face à l'avancée des communistes, parce qu'on était déjà en 1947, et le fleuron de l'idéologie anti-communiste. Dès lors, concomitamment à ce reflux nationaliste vers Taïwan, entre 48 et 1950, 1,5 million de réfugiés du continent sont arrivés à Taïwan. La terreur blanche, c'est le mot employé en chinois, enfin, bai se gong wu, mais c'est littéralement, ça veut dire terreur blanche. La terreur blanche s'est généralisée à Taïwan. Et en toute légalité, à partir de 1949, lorsque la loi martiale a été imposée pendant près de 40 ans. Donc, après la victoire communiste et la fondation de la République populaire de Chine, ce n'est pas la fin de la République de Chine, fondée donc en 1912, au lendemain de la chute de l'Empire. Défait sur le continent, le régime nationaliste se replie à Taïwan. Quand je dis que le régime se replie, c'est-à-dire que la haute administration, les assemblées parlementaires, il y avait trois assemblées parlementaires, l'armée et 1,5 million de personnes se réfugient à Taïwan. Mais les nationalistes ne se sont pas contentés de se réfugier à Taïwan, ils ne se sont pas contentés de faire de Taïwan un bastion pour reconquérir le continent, c'était leur projet évidemment, mais en transférant tout l'appareil bureaucratique de la République de Chine à Taïwan, ils ont revendiqué être le régime représentatif de l'ensemble de la Chine, c'est-à-dire de Taïwan et du continent, qualifiant l'avènement du régime communiste chinois sur le continent de simple rébellion temporaire, et Taipei devenant la capitale provisoire de cette République de Chine. Il y a eu beaucoup de capitales provisoires de la République de Chine pendant la guerre, puisque il y avait le gouvernement de collaboration pro-japonais qui, lui, s'était installé à Nankin. La République de Chine, en 1927, avait déménagé la capitale de Pékin à Nankin, et ensuite, pendant la guerre, avait déplacé plusieurs fois la capitale jusqu'à Chengdu, dans le Sichuan. Donc c'était Taipei, maintenant, à partir de 1949, qui est devenue la capitale en principe provisoire de la République de Chine. Mais encore fallait-il, bien sûr, qu'une telle fiction, parce que vous voyez la taille de Taïwan. Taïwan, c'est 36 000 km², c'est un peu plus grand que la Belgique. C'est un petit pays, mais c'est un pays qui a aux dimensions raisonnables. Encore fallait-il que cette fiction soit reconnue au plan international. Donc la troisième césure clé, c'est 1950. Quand la République populaire de Chine a été proclamée le 1er octobre 1949, elle a aussitôt été reconnue par l'URSS et les démocraties populaires d'Europe de l'Est, par quelques pays asiatiques qui étaient déjà décolonisés comme l'Inde, mais aussi par des pays européens, le Royaume-Uni, membre permanent du Conseil de sécurité. La Norvège, le Danemark, la Finlande, la Suède, la Suisse, l'Autriche, les Pays-Bas. Et par parenthèse, quand on écrit systématiquement presque tous les mois de janvier, il y a toujours un entrefilet, mais en tout cas quand on célèbre le 30e, le 40e anniversaire de la reconnaissance de la Chine populaire par le général de Gaulle en 1964, et que invariablement on écrit que la France est le premier pays occidental à avoir reconnu la Chine populaire, ou en tout cas le premier grand pays occidental à avoir reconnu la Chine populaire, c'est absolument faux, puisqu'il y a toute cette série de pays européens, dont le Royaume-Uni, membre permanent du Conseil de sécurité. La France s'apprête et songeait à reconnaître la Chine populaire dans les premiers mois de 1950, en janvier, mais en raison du conflit indo-chinois et de l'aide apportée par les communistes chinois au Viet Minh, ça n'était pas possible dans les premiers mois de 1950. Les États-Unis, eux aussi, s'apprêtaient à reconnaître le régime de Mao Tse-tung et donc à lâcher Chiang Kai-shek, quand, en juin 1950, la guerre froide s'est étendue à l'Asie avec l'ouverture des hostilités en Corée et à la suite de l'intervention chinoise dans la guerre de Corée, les Américains ont décidé et de protéger le régime de Chiang Kai-shek en envoyant la 7e flotte dans le détroit de Formose, détroit de Taïwan. Formose étant l'ancien nom, le nom donné par les Portugais à Taïwan. Ce qui veut Formosa voulant dire la belle, parce que c'est une très belle île, et d'accorder une aide économique très substantielle, 1,4 milliard de dollars entre 1950 et 1965, ainsi qu'une aide militaire au gouvernement nationaliste pour lui permettre de se maintenir à Taïwan et que les communistes ne puissent pas envahir Taïwan. Et donc, en raison du clivage de la guerre froide, tous les pays du camp occidental qui n'avaient pas encore reconnu la Chine populaire, et ils étaient nombreux, plus tous les pays décolonisés qui se sont alignés sur le bloc occidental, tous ces pays-là ont maintenu des relations diplomatiques avec Taipei, ce qui a permis à la République de Chine de continuer d'occuper le siège de membre permanent de la Chine au Conseil de sécurité. Ce régime nationaliste replié à Taïwan, il doit s'analyser comme un régime colonial. Sur le plan institutionnel, les institutions qu'on appelle en Chine les institutions centrales, on dirait nous en France les institutions nationales par opposition aux institutions provinciales, locales au niveau du district, des municipalités. Donc ces institutions centrales qui ont été importées du continent ont été superposées aux institutions locales, aux institutions de la province de Taïwan et des districts, des municipalités, etc. Et les mandats électifs qui avaient été obtenus au sein des assemblées parlementaires avant 1949 ont été transformés en mandats à vie à partir de 1954 pour que dans ces assemblées parlementaires à Taipei, il puisse y avoir des députés qui représentaient toutes les provinces de Chine, tant de députés de la province du Shandong, etc., etc. Voilà, ça c'est une carte officielle de la République de Chine que j'ai pris dans un annuaire de la République de Chine en 1999. Donc vous voyez, c'est très étonnant parce que d'abord, si vous n'êtes pas très familier avec les provinces chinoises, sous le régime communiste, les provinces chinoises ont été un peu redécoupées. Il y a des provinces qui n'existent plus et d'autres évidemment qui existent encore, mais enfin c'est pas du tout le même découpage. Et puis surtout, vous voyez que les frontières de la République de Chine englobent, sur cette carte officielle, englobent la Mongolie qui depuis était devenue indépendante, bien sûr. Et ensuite, toute la haute hiérarchie du parti, du gouvernement, de l'administration ont été réservés à la minorité dite continentale, c'est-à-dire ces Chinois arrivés du continent depuis 1945, entre 1945 et le début des années 50. À partir de 53-54, la frontière a été, la frontière naturelle qui est le détroit de Taïwan, mais il n'y a plus aucun échange possible entre Taïwan et la Chine. Donc ce schéma a institué un clivage subethnique très durable à Taïwan entre ce qu'on appelle les continentaux, ceux qui sont donc arrivés entre 45 et 5, entre 45 et le début des années 50, et les insulaires, c'est-à-dire les Taïwanais de souche, les descendants des colons chinois qui avaient émigré à Taïwan avant la colonisation japonaise. Et alors, en plus de la superposition de ces institutions centrales aux institutions locales, évidemment, la loi martiale qui a été maintenue pendant 40 ans, en raison de cet état de guerre civile qui n'a pas été clos avec les communistes, a fait que ça n'était pas, c'était évidemment, il n'y avait pas de liberté publique, etc., etc. J'ouvre une petite parenthèse, c'est que en 1947, le régime communiste avait adopté une nouvelle constitution, la constitution de 1947, qui, sur le papier, instituait un régime tout à fait démocratique, donc avec ses assemblées parlementaires élues, un multipartisme, etc., etc. Mais cette constitution, sur le continent, n'a jamais pu être vraiment éprouvée parce qu'on était en pleine guerre civile, et à Taïwan, après 1949, en raison de la loi martiale, elle n'a pas été appliquée telle qu'il était prévu, puisque les mandats des parlementaires ont été transformés en mandats à vie, donc ils n'ont pas été réélus, et la loi martiale n'a pas été levée. Ce schéma institutionnel s'est prolongé par une politique évidemment d'hégémonie culturelle. La cynité de la population a été systématiquement valorisée, mais la cynité au sens de la culture millénaire chinoise, de l'empire chinois, etc., etc., avec l'imposition du mandarin. Le mandarin est formé à partir de dialectes du nord de la Chine. L'imposition du mandarin comme seule langue possible à Taïwan, alors que les Taïwanais ne parlaient pas mandarin à cette époque-là. Ils parlaient des dialectes du sud, parce que tous ces colons qui sont venus par vagues successives venaient de la province du Fujian ou du nord du Guangdong. Et l'élite parlait japonais, bien sûr. Donc ils ont dû apprendre le mandarin. Cynité imposée aussi par l'enseignement de l'histoire de la Chine impériale, l'histoire distincte de Taïwan étant complètement occultée, et bien sûr l'histoire de la République populaire de Chine l'étant, et jusqu'aux cartes de géographie qui étaient fausses, qui avaient été, les cartes de géographie avaient été gelées à partir de 1949. Elle ne représentait pas la Chine post-49. Enfin, sur le plan économique, comme le régime communiste sur le continent au début des années 50, le régime nationaliste et le régime communiste au début des années 50 ne se différenciaient pas beaucoup. Le régime nationaliste à Taïwan a promu un capitalisme d'État visant à restreindre le capital privé. L'idéologie du Kuomintang, le Kuomintang est un parti léniniste dans son essence. L'idéologie du Kuomintang avant et après 1949 était une idéologie anticapitaliste, mais alors que sur le continent au début des années 50, le régime communiste avant la vaste opération de nationalisation qui a débuté en 1956, ce régime discriminait entre grands et petits patrons. À Taïwan, le régime nationaliste a discriminé entre continentaux et taïwanais, c'est-à-dire en fonction du clivage subethnique inhérent à son entreprise de domination coloniale. Pour demeurer une alternative crédible aux communistes et pour continuer de percevoir cette aide américaine, il ne pouvait pas complètement éradiquer l'entreprise privée. Et donc, un secteur rentier a été protégé par des traitements préférentiels et qui a été réservé en priorité aux entreprises publiques. Un secteur public qui était démesuré parce qu'il fallait récompenser tous ces fidèles du régime qui s'étaient repliés à Taïwan, où ils n'avaient aucune ressource. Et ce secteur rentier a été aussi réservé à quelques entrepreneurs privés, des entrepreneurs shanghaïens pour la plupart, qui s'étaient réfugiés à Taïwan, mais ils n'étaient pas nombreux, parce que comme le régime nationaliste était un régime anticapitaliste, la plupart des entrepreneurs chinois s'étaient plutôt réfugiés à Hong Kong, voire aux États-Unis. Enfin, quelques-uns avaient suivi Chiang Kai-shek. Et réservé également à très peu, quelques Taïwanais qui ont été cooptés en bonne tactique de tout régime colonial. Et ce patronat a été placé en position de dépendance, dépendance politique, puisque les avantages dont il bénéficiait, évidemment, avaient pour contrepartie une loyauté totale vis-à-vis du régime, dépendance économique, étant donné l'emprise de l'État sur le secteur financier, l'accès aux devises, aux matières premières, etc., etc. Et en même temps, cet État servait les intérêts de ses patrons, puisque il prohibait toute propagande, non seulement communiste, mais même socialiste, interdiction du droit de grève, et prévenait donc par avance tout possible conflit social. Au début des années 60, en prévision de la fin de l'aide américaine, le gouvernement a décidé de libéraliser le commerce extérieur et de promouvoir des industries exportatrices, afin uniquement d'alimenter le budget militaire grâce aux réserves de change escomptées de ces futures industries exportatrices. Mais comme le secteur privé avait déjà une niche dans le marché intérieur, aucune des entreprises existantes n'a voulu se tourner vers le commerce extérieur. Et donc, ce sont de petits... ce sont essentiellement des agriculteurs taïwanais qui ont fondé des petites PME qui, évincés du marché intérieur, se sont spécialisés dans la production pour des donneurs d'ordre étrangers, essentiellement américains. Et comme ils ne pouvaient prétendre au crédit bancaire, ils se sont appuyés sur leur parentèle et donc ces entreprises sont demeurées très modestes. Ces PME, essentiellement, c'était des petites PME commerciales, mais quand elles travaillaient pour des donneurs d'ordre étrangers, elles assemblaient et fabriquaient des transistors, de la toute petite électronique, des jouets, des parapluies, des choses comme ça. Bon. Et cette fragmentation du secteur productif entre grandes entreprises qui monopolisaient le marché intérieur et PME qui travaillaient pour des entreprises étrangères reposait sur une inversion habituelle des flux de l'offre et de la demande, puisque c'est la demande de biens de consommation des donneurs d'ordre étrangers qui induisait la production des PME, qui, à leur tour, se tournaient vers les fournisseurs de biens intermédiaires qui étaient situés en amont, c'est-à-dire les grandes entreprises. Et cette inversion des flux habituels va avoir une importance très grande par la suite. Et ces PME allaient devenir les acteurs centraux de la croissance de l'économie taïwanaise. En 1914, elle représente encore aujourd'hui 97% du tissu économique taïwanais et emploie 78% de la population active. Il faut maintenant faire un point sur revenir sur la scène internationale et au succès de la diplomatie chinoise dans les années 70. Donc, pendant 20 ans, la majorité des chancelleries occidentales n'ont pas eu de relations officielles, c'est-à-dire diplomatiques et consulaires, avec la Chine populaire. Mais évidemment, pour toutes, la question d'abandonner cette fiction d'une république de Chine repliée à Taïwan comme étant représentative de l'ensemble de la Chine se posait. Autrement dit, il s'agissait de faire prévaloir ce qu'on appelle le principe de l'effectivité. Le gouvernement effectif en Chine, c'était bien le gouvernement communiste. Et les États-Unis, pour leur part, n'avaient jamais écarté l'hypothèse de reconnaître la Chine populaire, mais évidemment, il y avait eu le McCarthyisme qui avait beaucoup retardé les choses. Et c'est Nixon qui lance le processus dès qu'il entre en fonction en 1969. Or, la normalisation sino-américaine va prendre beaucoup de temps, elle va prendre 8 ans. Mais les premiers signes de la normalisation sino-américaine, et en particulier le voyage de Kissinger en Chine en 1971 et surtout le voyage de Nixon en 72, ont donc complètement précipité les choses pour toutes les autres chancelleries qui ont décidé d'établir des relations diplomatiques avec Pékin et de rompre avec Taipei. Et donc, rapidement, dès 1971, une majorité s'est dégagée à l'Assemblée générale de l'ONU pour expulser cette République de Chine qui a été remplacée par la République populaire de Chine, et notamment qui détient le siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Et ce processus d'exclusion s'est étendu à toutes les autres organisations internationales. La complète normalisation des relations entre les États-Unis et la Chine a donc pris 8 ans parce que précisément elle a buté sur la question de Taïwan. Pékin exigeant que les États-Unis reconnaissent formellement que le gouvernement de la Chine populaire est le seul gouvernement légal de la Chine et que Taïwan est une province de la Chine. Et ce pas a été franchi par Carter en décembre 1978. Le 15 décembre 1978, Pékin et Washington annonçaient la normalisation des relations sino-américaines qui est devenue effective le 1er janvier 1979. Et donc, Washington a rompu avec Taipei le 1er janvier 1979. Donc, a rompu ses relations diplomatiques et officielles. N'a pas rompu toutes ses relations, mais ce ne sont plus des relations officielles. Et en outre, Pékin a obtenu de toutes les autres chancelleries qui ne l'avaient pas encore fait, toutes, absolument toutes, qu'elles signent des communiqués par lesquels elles reconnaissent la souveraineté de la Chine populaire sur Taïwan. Et donc on voit bien que la fiction initiale s'est renversée, c'est-à-dire que maintenant c'est la Chine populaire qui est reconnue comme souveraine sur Taïwan, alors que la Chine populaire n'exerce aucun contrôle sur Taïwan. Alors la République de Chine à Taïwan n'est pas complètement, à partir de maintenant je vais en général, je vais dire Taïwan parce que c'est plus simple, mais le nom officiel de l'État c'est encore République de Chine. Taïwan n'est pas complètement isolé diplomatiquement, suivant les époques entre 20 et 30 États ont des relations diplomatiques avec Taipei. Aujourd'hui cet effectif est à 22, mais il ne comprend aucun État qui a quelque poids sur la scène internationale. Ce sont des micro-États du Pacifique, ce sont des États d'Amérique centrale, trois États africains dont le Burkina Faso et le Vatican. Mais le Vatican travaille à la normalisation de ses relations avec la Chine. Évidemment, il bute sur toute la question du statut de l'Église catholique en Chine. Alors, la spécificité de cette partition de la Chine, c'est donc qu'elle repose sur des fictions, et que contrairement aux partitions de l'Allemagne avant sa réunification et de la Corée encore aujourd'hui, il n'y a jamais eu coexistence au niveau bilatéral comme au niveau multilatéral de deux États, mais il y a toujours eu substitution de l'un à l'autre, chacun étant tour à tour reconnu comme souverain sur l'ensemble du territoire, le continent plus l'île. Dans mes travaux, ce processus de déreconnaissance de la République de Chine à Taïwan et de reconnaissance de la souveraineté de la Chine de la Chine populaire sur Taïwan, c'est ce que j'ai appelé la nationalisation par opposition à internationalisation, la nationalisation de la question de Taïwan. Le règlement de la question de Taïwan est maintenant une affaire intérieure chinoise dont toute tierce partie est désormais exclue. Et il faut bien voir que toute la modernisation aujourd'hui de l'outil militaire chinois est tout entier conçue autour de la question de Taïwan. Et il y a actuellement entre 1500 et 1700 missiles balistiques à courte portée qui sont pointés vers l'île de Taïwan si Taïwan déclarait son indépendance, par exemple. Or, j'en ai dit un mot en introduction, la normalisation sino-américaine, qui est ce point donc d'aboutissement de ce processus de nationalisation, coïncide sur le plan intérieur chinois avec la défaite des néo-maoïstes. Mao est mort en 1976. Il y a eu un intermède, un flottement entre 76 et la fin de l'année 1978. La fin de l'année 1978, c'est la normalisation sino-américaine, mais qui était préparée depuis 1971. Décembre 1978, c'est le début de l'ère Deng Xiaoping et de sa politique dite de réforme et d'ouverture. En 78, Deng Xiaoping a réussi à forger un consensus au sein des différentes factions du Parti communiste chinois, et il a substitué à la politique de libération de Taïwan, c'est le mot, libération de Taïwan, par la force, sous-entendu, celle de réunification pacifique, mais sans toutefois renoncer à l'usage de la force pour récupérer l'île, si celle-ci déclare son indépendance, et même... Et une loi a été votée en ce sens en 1905, si tous les moyens pour opérer cette réunification pacifique sont épuisés, si tous les moyens négociés sont épuisés. Et en même temps, Deng Xiaoping proposait la reprise des réunions familiales entre les deux rives du détroit et l'ouverture de relations directes aériennes et maritime entre les deux rives. Deux années plus tard, en 1981, la Chine proposait à Taïwan un très haut degré d'autonomie au sein de la République populaire de Chine en tant que région administrative spéciale, selon la formule « un pays, deux systèmes », c'est-à-dire système communiste et système capitaliste, et le statut de région administrative spéciale a été inscrit dans la constitution, la nouvelle constitution chinoise qui a été adoptée en 1982. Autant de propositions qui ont été refusées par le gouvernement de Taipei, qui continuait de prohiber toute relation avec la Chine populaire. Mais, d'une part, la formule clé de la réunification nationale, un pays, deux systèmes, sous-tend tout le lancement des réformes en Chine, dans la mesure où c'est sur le continent lui-même que divers systèmes ont été déclinés pour tenter de découpler l'économique du politique, c'est-à-dire pour attirer des capitaux étrangers, et ceux de Taïwan, Hong Kong et Macao en priorité, sans instituer le multipartisme en Chine. Et d'autre part, lorsque la question de l'avenir de la colonie britannique de Hong Kong s'est posée en 1982, que Margaret Thatcher est allée à Pékin pour négocier l'avenir de Hong Kong, puisque les nouveaux territoires, donc la portion la plus grande de la colonie de Hong Kong, le bail venait à expiration en 1997, c'est la formule de la région administrative spéciale qui avait d'abord été conçue pour Taïwan, qui a été proposée à Margaret Thatcher pour Hong Kong après 1997. Et précisément, la rétrocession de Hong Kong a achevé ce processus de nationalisation des marches insulaires de la Chine. Puisque la déclaration sino-britannique qui a été signée en 1984 prévoyait le retrait de toute présence administrative et militaire britannique à partir du 1er juillet 1997 et en échange la mise en place d'une région administrative spéciale, d'un régime qui est exorbitant au regard du droit chinois, c'est-à-dire le maintien du système légué par les Britanniques en 1997, pendant une durée de 50 ans, mais Hong Kong est sous souveraineté chinoise. Il y a eu nationalisation en ce sens que les Chinois ont exigé que les Britanniques rétrocèdent Hong Kong à la Chine, non pas sous la forme d'un traité, mais sous la forme d'une déclaration conjointe. Et par conséquent, l'avenir de cette région administrative spéciale est soustrait de la compétence de toute tierce partie. Elle relève exclusivement du bon vouloir de Pékin. Alors, pour comprendre pourquoi les Britanniques ont accepté cet accord, il faut revenir à la spécificité de la colonisation britannique de Hong Kong. Il ne s'est pas agi d'une colonie de peuplement. Il n'y a pas eu de colons anglais qui se sont installés à Hong Kong. Il y avait juste des fonctionnaires britanniques qui étaient envoyés comme expatriés temporairement pour administrer la colonie. L'essentiel de la population de Hong Kong, la grande, a toujours été une population chinoise. Ce n'était pas non plus une colonie d'exploitation, il n'y a pas de ressources naturelles à Hong Kong, mais c'était et c'est toujours aujourd'hui un port franc. Et donc, la politique coloniale britannique a été tout entière axée sur la protection des intérêts des maisons de commerce britanniques. Et à partir du moment où les Chinois se sont engagés à maintenir pendant 50 ans ce statut de port franc, les Britanniques n'ont rien perdu en rétrocédant Hong Kong de cette manière à la Chine. Et donc il y a eu une méprise sur le système qui devait être préservé à la suite de la rétrocession de la colonie à la Chine, parce que l'état de droit du colonisateur britannique ne renvoie absolument pas à la notion de légalité dans lequel la loi est l'expression de la volonté générale. À Hong Kong, avant 1997, la loi a toujours été imposée par le colonisateur. Cet état de droit du colonisateur britannique renvoie au cœur même de ce qui a été longtemps la conception anglaise de l'état de droit, c'est-à-dire « the rule of law », ce qui est avant tout un système de garantie des libertés publiques. Et effectivement, les libertés publiques, la liberté de la presse, la liberté d'entreprendre, etc., étaient garanties à Hong Kong. Et lorsque la rétrocession a été décidée en 1984, la spécificité de Hong Kong résidait dans cette garantie des libertés fondamentales, sans un régime, sans même l'amorce d'un régime représentatif de la population locale, et pratiquement pas de législation sociale. Lorsque les Britanniques se sont retirés, il n'y avait pas de salaire minimum, il n'y avait pas de protection du droit de grève, il n'y avait pas de système de couverture obligatoire contre les risques, maladies, vieillesse, etc. Néanmoins, après que la rétrocession de Hong Kong ait été décidée en 1984, le colonisateur a cherché in extremis à démocratiser un tout petit peu les institutions de Hong Kong en accroissant la représentativité du Parlement local, un tiers de ses membres devant être élus au suffrage universel. Et ce changement a été précipité par les événements de Tiananmen qui ont eu lieu en juin 1989. Le massacre de Tiananmen est survenu justement après que la rétrocession ait été décidée, mais alors que la mini-constitution de la région administrative spéciale était encore en cours de négociation entre les Britanniques et les Chinois. Donc c'est pour ça que le massacre de Tiananmen a suscité une émotion considérable dans la colonie et une mobilisation sans commune mesure de ce qui s'est passé dans le reste du monde chinois, que ce soit à Taïwan ou dans les communautés chinoises d'outre-mer. Et cette mobilisation a conduit à la formation de partis politiques autour de trois forces politiques principales. Un parti démocrate regroupant les étudiants, les enseignants, les avocats, les syndicalistes indépendants. Un parti libéral qui est l'expression des milieux d'affaires. Et une troisième force qui est ouvertement pro-Pékin et qui recrute, elle, dans des groupes sociaux plus diversifiés, mais qui s'occupe plus de questions beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus locales. Donc le parti libéral et cette troisième force sont deux forces qui sont pro-Pékin, qui étaient pro-colonisateurs britanniques et qui ont transféré leur allégeance du colonisateur britannique vers le pouvoir central chinois après la rétrocession de 1997. Donc ce processus de rétrocession n'a absolument pas suscité la convergence des intérêts dits locaux, qui est propre à toute décolonisation, mais un clivage s'est institué entre, d'un côté, les milieux d'affaires et, de l'autre, une opposition démocratique qui n'a jamais été indépendantiste, qui n'a jamais réclamé l'indépendance de Hong Kong, mais qui a d'emblée lié la démocratisation de Hong Kong et son soutien à toute forme de dissidence en Chine. Concomitamment, à la fin des années 80 à Taïwan, il y a eu un processus de démocratisation qui s'est enclenché, mais d'une toute autre nature de ce qui avait lieu à la même époque à Hong Kong. Puisque le régime nationaliste tel qu'il s'est installé après 1949 à Taïwan s'analyse comme un régime colonial, la démocratisation s'analyse comme une forme de décolonisation, une décolonisation de l'intérieur, une indigénisation de la République de Chine à Taïwan. Comme je vous l'ai dit, les institutions centrales, les assemblées parlementaires avaient été gelées, mais malgré la loi Martial, il y a eu une forme de démocratie locale après 1949 qui a joué, parce que toutes les institutions locales, provinciales, de district, les municipalités, etc., les assemblées de ces circonscriptions ont été renouvelées régulièrement au suffrage universel masculin et féminin. Dans le cadre d'un parti unique, évidemment, le Kuomintang, mais le Kuomintang a laissé des candidats indépendants se présenter à ces élections locales. Ces élections étaient assez compétitives. Environ la moitié des effectifs des assemblées étaient régulièrement renouvelés. Alors évidemment, les campagnes étaient fortement censurées. Pas question de parler d'indépendance de Taïwan, pas question de parler de toute propagande communiste, bien évidemment, enfin, etc. Mais ce schéma dual jetait les bases d'un système pluraliste, parce que petit à petit, ces candidats indépendants qui se présentaient à des élections purement locales se sont regroupés sous une même étiquette. Ils se sont appelés, et on les a appelés, les hors-partis, hors du parti nationaliste. Et petit à petit, ils ont coordonné leur campagne électorale au niveau local en abordant des questions plus nationales et surtout en remettant, sans réclamer l'indépendance de Taïwan, c'est-à-dire que le régime ne revendique plus sa souveraineté sur l'ensemble du territoire chinois, ils ont quand même remis en cause la légitimité, ce qui fondait la légitimité de ce régime à Taïwan, c'est-à-dire sa supposée représentativité de l'ensemble de la Chine et sa volonté de reconquérir le continent. Et en 1986, enfreignant la loi Martial, ces extérieurs au parti se sont institués en parti politique, le Parti démocrate progressiste, que pour plus de facilité, j'appellerai le DPP selon son acronyme anglais. Et ce DPP a aussitôt inscrit dans ses statuts l'organisation d'un référendum sur l'indépendance de Taïwan sous la forme d'une République de Taïwan. Or, à ce moment-là, évidemment, le régime était fortement délégitimé par son absence de reconnaissance internationale. Et le président de la République de l'époque, qui n'était autre que le fils de Chiang Kai-shek, s'est opposé à la vieille garde nationaliste pour refuser de sanctionner la fondation illégale du DPP. Du coup, la nécessité de légaliser ce parti a conduit à la levée de la loi Martial l'année suivante, en 1987, et progressivement à une refonte complète du système. Et c'est la double opposition de Pékin et de la vieille garde du Kuomintang à une remise en cause radicale du principe de l'unité de la Chine qui explique que cette constitution de 1947, qui était la constitution toujours, adoptée sur le continent, ait été simplement amendée, chaque changement s'inscrivant de la sorte dans la continuité juridique de la République de Chine. Et aujourd'hui encore, c'est cette constitution de 47 qui est en vigueur à Taïwan, et à chaque fois qu'il a été question, parce que c'est un espèce de, il y a plein d'amendements dans tous les sens, c'est un patchwork, parce que cette constitution, elle a été prévue quand même pour un territoire immense. Et donc, bon, chaque fois qu'il a été question que Taïwan adopte une nouvelle constitution, immédiatement, la pression militaire de Pékin a fait que les Taïwanais ne peuvent pas adopter une nouvelle constitution. Alors, je vous passe sur le processus de démocratisation, mais en quelques années, les changements ont abouti donc à une indigénisation de cette République de Chine à Taïwan, à une décolonisation de l'intérieur, en ce sens que toutes les institutions au niveau central sont représentatives du seul électorat qui est sous le contrôle effectif du gouvernement de Taipei. Ce régime répond à tous les critères d'une démocratie, imparfaite bien sûr comme toute démocratie, mais pas plus imparfaite qu'une autre, et d'un état de droit. Et cette démocratisation s'est prolongée dans le domaine culturel avec la levée de tous les tabous, l'autorisation de tous les dialectes, une réécriture de tous les manuels d'histoire, la reconnaissance du massacre de 1947 qui a été érigé comme une tragédie nationale, etc. Et sur le plan extérieur, La démocratisation s'est traduite par le fait que Taipei a accepté de coexister aux côtés et non plus à la place de la République populaire de Chine au niveau bilatéral et au niveau multilatéral sur la scène internationale, mais ce qui n'a pas été possible étant donné l'opposition de Pékin. Et elle a, sur le plan extérieur, la démocratisation aussi s'est traduite par une reconnaissance de facto de par Taipei de la République populaire de Chine. Aucun traité de paix n'a été signé, évidemment, entre les deux États, avec pour conséquence une politique de non-ingérence dans les affaires intérieures chinoises. Et donc, contrairement à Hong Kong, le massacre de Tiananmen qui a eu lieu en pleine démocratisation à Taïwan a suscité, évidemment, émotion, indignation, comme partout ailleurs, mais aucune solidarité active entre les démocrates taïwanais et les dissidents chinois. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la démocratisation de Taïwan a émancipé Taïwan de cette matrice coloniale. Mais elle ne l'a pas émancipée de la guerre civile parce que le clivage partisan fait système avec le conflit de souveraineté. En Europe, mais également au Japon, avec l'avènement de la démocratie parlementaire, les clivages partisans se sont constitués autour d'un certain nombre de binômes qui sont récurrents. C'est soit État contre Église, soit centre-périphérie, soit la bourgeoisie versus ouvrier, gauche-droite. À Taïwan, le binôme, c'est réunification-indépendance. On a d'un côté le Kuomintang qui n'exclut pas une réunification à long terme avec la Chine, mais qui pose aujourd'hui comme condition que la Chine soit démocratique. Et on a de l'autre côté le DPP qui n'exclut pas la proclamation d'une république de Taïwan indépendante. Mais pour les deux partis, lorsqu'ils alternent au pouvoir, chacun des deux partis, ils sont obligés de gérer le statu quo, c'est-à-dire de maintenir l'indépendance de fait de cet État. Le DPP ne veut pas d'une guerre. C'est très bien que s'il proclame l'indépendance immédiatement, il y a 1700 missiles balistiques, des sous-marins, etc. Enfin, et les États-Unis ne soutiendront pas Taïwan si Taïwan proclame son indépendance. Quant au Kuomintang, il ne veut pas être réunifié aujourd'hui à la Chine parce que le Kuomintang veut rester un parti politique, ne veut pas se fondre dans le Parti communiste chinois. Et alors évidemment, dans chacun des deux partis, il y a eu des scissions des factions extrémistes, ceux qui sont pro-réunification aujourd'hui selon la formule un pays deux systèmes. Donc il y a un parti politique qui on dirait à la droite, si on prend le clivage droite-gauche, à la droite du Kuomintang qui est pour l'unification aujourd'hui, et on a un parti ouvertement indépendantiste qui est pour la proclamation de l'indépendance, à la gauche du DPP. Et donc si on met en parallèle Taïwan et Hong Kong, on voit qu'à Taïwan on a un État démocratique indépendant de fait, alors qu'à Hong Kong on a une opposition démocratique qui, elle, n'a aucune revendication indépendantiste et qui est solidaire de toutes les causes dissidentes en Chine. Enfin, à Taïwan, pour des raisons historiques, les deux camps, Kuomintang et DPP, ont pour base électorale des entrepreneurs. Le grand patronat pour le Kuomintang et le petit patronat pour le DPP, ces petits patrons qui avaient été discriminés dans le cadre de l'économie coloniale nationaliste mise en place par le Kuomintang dans les années 50 et 60. Or, ces entrepreneurs, qu'ils soient grands ou petits, ont, dès la levée de la loi martiale à Taïwan en 87, délocalisé leur production en Chine. Donc, cela nous ramène aux réformes en Chine. En Chine, le lancement des réformes est inséparable de la politique de réunification nationale, parce que la formule clé un pays deux systèmes, c'est en Chine elle-même qu'elle a été déclinée dès les premières années de la réforme. Pour, comme je l'ai dit, tenter de comme vis-à-vis de Hong Kong, pour tenter de découpler l'économique du politique, c'est-à-dire introduire l'économie de marché sans remettre en cause le régime de parti unique, et pour attirer les capitaux étrangers, ceux de Taïwan et de Hong Kong en particulier, afin qu'ils permettent d'amorcer la croissance de l'économie chinoise, et aussi pour une raison politique, en misant que l'intégration économique entre ces marches insulaires et le continent amènerait une réunification politique. croissance économique et réunification nationale sont les deux principales sources de légitimité du Parti communiste chinois encore aujourd'hui. Et quand on lit les débats au sein du Parti communiste chinois à l'époque, donc au moment du lancement des réformes, on voit à quel point les communistes ont été influencés par le modèle économique des nationalistes à Taïwan dans les années 60 et 70. Notamment quand il s'agit d'introduire l'économie de marché en découpant le territoire en zone économique spéciale plus ou moins ouverte sur l'extérieur. C'est ce qu'avaient fait les nationalistes quand ils ont promu ces industries exportatrices au début des années 60. Donc les communistes ont copié sur les zones taïwanaises. Et dès 1979, 4 zones économiques spéciales ont été instituées, positionnées sur le littoral face à Macao, Hong Kong et Taïwan. Véritable enclave dans le territoire de la Chine populaire, ces zones économiques spéciales offraient des conditions privilégiées aux investisseurs étrangers et encore plus privilégiées aux compatriotes, c'est le terme qui a été employé, aux compatriotes de Hong Kong, Macao et Taïwan. Dans ces zones économiques spéciales, une liberté d'action, très grande liberté d'action, a été laissée aux bureaucrates locaux chinois. Les zones économiques spéciales conservaient tous leurs revenus en devises. Il y avait un système dérogatoire en termes de droit du travail, de fixation des prix, de taxation, etc. Et la technique du découpage territorial, la technique de l'enclave, ensuite, au cours des réformes en Chine, a essaimé sur tout le littoral, qui a été découpé en zones plus ou moins ouvertes sur l'extérieur, permettant d'étendre les réformes à l'ensemble du territoire. Alors évidemment, ce sont les entrepreneurs hongkongais qui ont immédiatement délocalisé, pour faire face à la hausse des coûts de production à Hong Kong, ont délocalisé leurs activités dans la zone économique spéciale de Shenzhen, qui jouxte Hong Kong, puis ensuite dans toute la province du Guangdong. Et pour ce qui concerne les entrepreneurs taïwanais, il a fallu qu'ils attendent la levée de la loi martiale, bien sûr. Parallèlement à la levée de la loi martiale, le gouvernement nationaliste a autorisé les réunions familiales. C'était une mesure qui visait, en fait, la partie continentale de la population taïwanaise, puisque beaucoup avaient laissé leurs parents, voire leur épouse, puis tous leurs cousins, etc., quand ils avaient fui dans les années 40 et 50 à Taïwan. Mais en fait, les patrons de petites entreprises, qui eux aussi avaient des liens familiaux en Chine, puisqu'ils étaient descendants de colons chinois, et qui eux, à la différence des continentaux, parlaient les dialectes des provinces où ont été établies les premières zones économiques spéciales, les dialectes du Fujian et le dialecte du nord du Guangdong, ont prétexté de visites familiales pour aller prospecter le marché chinois et commencer à délocaliser illégalement, au regard de la loi taïwanaise, leurs entreprises en Chine. Et comme il y avait cette inversion des flux de l'offre et de la demande dont je vous ai parlé tout à l'heure, très rapidement les grandes entreprises, pour conserver leurs clients, qui étaient les PME, auxquels elles fournissaient les biens intermédiaires dont elles avaient besoin, ces grandes entreprises ont délocalisé à leur tour, ont suivi leurs clients sur le territoire et ont délocalisé à leur tour leur production en Chine. Ces délocalisations donc ont commencé à la fin des années 80 pour aboutir au cours des années 2000 à ce que Taïwan devienne le premier investisseur étranger en Chine, y compris dans les secteurs de pointe de l'électronique. Dans ce secteur, les entreprises taïwanaises assurent jusqu'à 70% des exportations chinoises. Et d'où l'expression « made in China by Taiwan ». Ces délocalisations ont entraîné une immigration de 1 ou à 2 millions de Taïwanais en Chine, c'est-à-dire à peu près 10% de la population chinoise. Et les 10% les plus productifs de la population de Taïwan, puisque c'est de la population active qui travaille en Chine. Dans ce mouvement de délocalisation, les entrepreneurs taïwanais n'ont cessé de transgresser la législation taïwanaise qui, dans un premier temps, interdisait les investissements en Chine, et puis ensuite les limitait. Et donc la législation taïwanaise a toujours été en retard d'un cran, a toujours été une légalisation ex post des brèches qui ont été ouvertes par les entrepreneurs en Chine. L'ampleur de ces délocalisations s'explique évidemment par la hausse des coûts de production à Taïwan, par une législation environnementale beaucoup plus contraignante, par l'attractivité, bien sûr, des mesures préférentielles offertes par la Chine, mais aussi par le legs de l'économie nationaliste des années 50 et 60, cette fragmentation entre grandes entreprises monopolisant le marché intérieur et petites entreprises exportatrices. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce mouvement massif de délocalisation a eu lieu sans que soient établies des relations maritimes et aériennes directes entre les deux rives. Et loin de décourager, au contraire, l'absence de relations aériennes et maritimes directes a nourri ce mouvement de délocalisation pour trois séries de raisons. D'abord, les entrepreneurs ont toujours anticipé l'ouverture, la mise en place de vols et de lignes maritimes directes. Donc, ça a stimulé les investissements taïwanais en Chine, qui ont investi dans des aéroports, dans des ports en eau profonde, etc. Et en même temps, l'ajournement de l'ouverture a contraint les entrepreneurs et leurs familles à s'installer pour de bon... en Chine, à revenir moins souvent à Taïwan parce que c'était trop coûteux. Donc, du coup, ça a à son tour stimulé de nouveaux investissements en termes de restaurants, de choses comme ça. Et les États ou territoires tiers par lesquels les personnes et surtout les fonds ont été contraints de passer, parce que jusqu'en 2001, le gouvernement taïwanais interdisait qu'il y ait des transferts de fonds directs entre Taïwan et la Chine, tout devait passer, y compris, enfin, et les marchandises, par la force des choses, puisqu'il n'y avait pas de relation maritime aérienne directe, tout devait passer par un État ou un territoire tiers. Je dis territoire parce qu'en général, c'était par Hong Kong, c'était ce qui avait de plus facile. Ces territoires tiers ont été autant d'écrans qui ont permis de couverture, si vous voulez, qui ont permis les industriels de s'affranchir de la réglementation restrictive de Taipei. Enfin, contrairement aux objectifs du Parti communiste chinois, ces délocalisations, en tant que telles, n'ont pas fait progresser la réunification nationale. Pourquoi ? D'une part, parce que comme les Taïwanais en Chine ont opéré en étant dépourvus, et ils sont encore aujourd'hui, dépourvus de toute protection internationale, ces entrepreneurs se sont placés sous la protection des bureaucrates locaux et ils ont contribué à alimenter le système d'accaparement rentier de l'économie chinoise par les cadres locaux et donc à alimenter la corruption. Je vous ai expliqué en quoi ça ne permet pas de faire avancer la réunification nationale. Ce qui caractérise la Chine des réformes, ce n'est absolument pas une privatisation de l'économie, mais c'est un processus d'autonomisation des pouvoirs locaux par accaparement rentier de l'économie grâce à la reconversion du pouvoir des bureaucrates locaux de leur pouvoir bureaucratique en pouvoir économique. Ce sont les bureaucrates locaux en fait qui détiennent tous les moyens, tout ce qu'il faut pour que les entreprises marchent au niveau local, pour ce qui concerne l'accès à l'eau, etc., etc. Et tout ça, c'est monnayé, bien sûr. Donc, le vide juridique dans lequel les entrepreneurs taïwanais ont opéré en Chine a été compensé par tout le parti qu'ils ont su tirer de ces modes de gouvernement en Chine. Les réformes fiscales des années 80 en Chine ont octroyé, en particulier, une très large autonomie aux bureaucraties locales. Donc, en échange de contribuer à l'élargissement de l'assiette fiscale d'une localité et donc de favoriser l'avancement des bureaucrates chinois, les Taïwanais ont négocié des protections ad hoc de leurs entreprises en Chine. Et finalement, ils ont sélectionné leur implantation en Chine beaucoup moins en faveur des mesures préférentielles qui leur étaient offertes qu'en fonction des faveurs, des passe-droits qu'ils ont pu négocier avec les bureaucrates locaux. Et donc, les bureaucrates locaux, au lieu de propager la bonne parole réunificationniste, ils ont abandonné toute propagande pour, au contraire, faire des affaires avec les entrepreneurs taïwanais. Ils n'ont pas été les relais escomptés du pouvoir central dans la politique de réunification nationale. Mais si les délocalisations en tant que telles n'ont pas engendré un processus de réunification de Taïwan à la Chine, c'est par le biais des ressorts du système démocratique taïwanais que progresse sinon une réunification en bonne et due forme, du moins l'hégémonie chinoise. Donc il faut garder présent à l'esprit que les deux partis principaux, le Kuomintang et le DPP, ont pour base électorale des entrepreneurs. Entrepreneurs qui, qu'ils soient grands ou petits, ont investi en Chine. Et donc l'enjeu que représentent ces entrepreneurs en termes de relations clientélistes, notamment pour le financement des campagnes électorales de ces deux partis, comme en termes de crédibilité de leur politique économique lorsqu'ils élaborent des programmes électoraux. Donc, sans du tout abandonner la menace de recourir à la force, Pékin a su tabler sur ces enjeux, jouer du multipartisme, jouer des échéances électorales, par exemple, en offrant des mesures préférentielles à des électorats taïwanais très ciblés, comme par exemple les agriculteurs et les pêcheurs, l'absence de droits de douane, par exemple, pour certains producteurs de certains fruits et légumes dont on sait qu'ils sont traditionnellement un des électorats du DPP pour qu'ils votent Kuomintang, etc. Pourquoi ? Parce que pendant que le Kuomintang était dans l'opposition, il a été dans l'opposition pendant 8 ans, entre 2000 et 2008, c'était le DPP, c'était un président de la République DPP qui était à la tête de l'exécutif. Pendant les 8 ans où le Kuomintang a été dans l'opposition, le Kuomintang est allé négocier avec le Parti communiste chinois une libéralisation d'envergure des relations sino-taïwanaises si le Kuomintang revenait au pouvoir. Et de fait, depuis qu'il est revenu au pouvoir en 2008, 19 accords ont été signés entre la partie chinoise et la partie taïwanaise, des accords qui couvrent depuis la mise en place de vols directs entre Taïwan et le continent, de relations maritimes directes, la signature d'un accord cadre de coopération économique, des accords dans les domaines sanitaires, dans les domaines judiciaires pour mieux lutter contre la criminalité, etc., etc. Et le principe qui a présidé à toutes ces négociations a été celui d'une éviction du politique, sur le fond comme dans la forme. Sur le fond, toute négociation sur le conflit de souveraineté a été écarté. Le dialogue entre les deux parties n'a porté que sur des questions très techniques. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des comment fait-on pour rapatrier un criminel taïwanais qui s'est réfugié en Chine, etc. Écarté dans la forme, puisque un organisme ad hoc qui est censé être une fondation privée a été institué à Taïwan pour pouvoir négocier avec la Chine. Merci beaucoup. Et négocier non pas avec le gouvernement chinois, mais avec un organisme ad hoc chinois. Mais en fait, derrière ces deux organismes, il y a les deux gouvernements, taïwanais et chinois, bien sûr. Mais les accords qui ont été signés sont signés par les présidents de ces deux organismes ad hoc. Donc, aucune référence, si on lit les accords, il n'y a aucune référence à leur gouvernement respectif. Il n'y a aucune référence, quand on lit les accords, aux deux États respectifs. Les accords parlent du continent, pour parler de la Chine. Bon, et ils parlent de Taïwan. Taïwan, c'est pas le nom d'un État. C'est un nom géographique, Taïwan. Surtout, ils parlent du détroit, mais sans nommer le détroit, et ils parlent des deux rives. Il y a des accords entiers qu'on pourrait lire, on pourrait dire c'est un accord qui s'applique le détroit, ça pourrait être le Bosphore par exemple. On peut pas véritablement localiser ces accords quand on les lit. Mais cette opération de dépolitisation n'est pas sans conséquence sur le politique à Taïwan, sur le plan des relations extérieures de Taïwan bien sûr, puisqu'elle a privé la partie taïwanaise de négocier sur les volets militaires et diplomatique de la politique taïwanaise de Pékin. Volet militaire, ce sont ces missiles que Taïwan voudrait voir démantelés, qui sont pointés sur l'île, bien sûr. Volet diplomatique, c'est l'exclusion de Taïwan de la scène internationale et des organisations internationales. Ensuite, même dans les domaines où les accords ont été conclus, ils ont ratifié une forme de domestication de l'entité taïwanaise. Je m'explique. Par exemple, pour ce qui concerne la protection des investissements taïwanais en Chine, un accord a été conclu, mais qui en fait ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que, en gros, je simplifie énormément, je schématise, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais quand il y a un contentieux, quand un entrepreneur taïwanais veut faire valoir ses droits en Chine, en gros, il dépend des tribunaux chinois. Parce que Pékin a refusé la procédure de l'arbitrage international, qui est pourtant une procédure, un mécanisme de droit privé, craignant que s'il acceptait cette procédure, Taïwan apparaisse trop comme un État. Autre exemple, les vols entre les deux rives ne sont pas, voilà. Les vols, vous voyez, les couloirs aériens, ce sont les couloirs aériens qui sont en vert. Ce sont pas le couloir médian n'a pas été ouvert pour des raisons de sécurité, évidemment. Mais surtout, pourquoi est-ce qu'il y a cette, entre guillemets, domestication de l'entité Taïwan, ce processus de domestication à la suite de la signature de ces accords? En ce qui concerne les vols, par exemple, les vols entre les deux rives ne sont pas des vols internationaux. Ils sont qualifiés de vols entre les deux rives et ils ne peuvent pas être exploités par des compagnies autres que des compagnies chinoises et taïwanaises. Je pourrais donner bien d'autres exemples. Et sur le plan intérieur, surtout, cette opération de dépolitisation a eu des conséquences sur le politique, car elle s'est accompagnée d'une remise en cause de l'état de droit et des libertés publiques à Taïwan. Les accords ont été négociés de manière non transparente et sans être soumis à contrôle parlementaire. Et c'est d'ailleurs le mode de ratification d'un des accords, du dernier accord, qui a provoqué, il y a eu quelques articles dans la presse française, ce qu'on a appelé la révolution des tournesols au printemps dernier, c'est-à-dire l'occupation de l'hémicycle du Parlement à Taïwan par des étudiants pendant 3 semaines. Lorsque des négociateurs chinois, les négociations ont lieu alternativement à Taïwan et en Chine. Lorsque des négociateurs chinois viennent à Taïwan, il y a des restrictions au droit de manifester, parce que évidemment toute une partie de la population est contre la signature de ces accords. Et alors là, le Kuomintang est complètement pris dans ses contradictions, parce que il a renvoyé la réunification à la démocratisation de la Chine, mais en même temps, il n'ose pas exposer aux négociateurs chinois ce que les Chinois pourraient considérer comme les excès de la démocratie, les manifestations, etc. Lorsqu'un négociateur chinois vient à Taïwan, ça s'accompagne d'une restriction au déploiement du drapeau national, du drapeau de la République des Chines. Plus généralement, à la faveur de la pénétration du capital chinois à Taïwan, notamment dans les médias chinois, on voit se multiplier des pratiques d'autocensure dans la presse proche du Kuomintang, lorsqu'il s'agit de relater les activités dissidentes en Chine. Et enfin, sur le plan social, cette libéralisation des échanges contribue à creuser les clivages sociaux à Taïwan. En gros, elle favorise le gros patronat aux dépens du petit patronat et des classes moyennes du tertiaire. Et donc, à l'avenir, comme à Hong Kong, les clivages partisans à Taïwan pourraient se nouer non plus autour du politique avec la Chine, c'est-à-dire la question de l'alternative indépendance-réunification, mais autour du politique en Chine, c'est-à-dire plus ou moins grande résistance au pouvoir central chinois. Le glissement est d'ores et déjà perceptible à la faveur des négociations, par exemple. Des défenseurs des droits de l'homme ou des membres de l'opposition ont demandé la signature d'un accord sur les droits des prisonniers taïwanais en Chine. Il y a des prisonniers taïwanais de droit commun en Chine, mais évidemment, si un tel accord est signé, ça alimentera le débat sur les droits des prisonniers chinois. Et plus généralement, les critiques ouvertes du régime chinois se multiplient à Taïwan sous forme de manifestations plus ou moins spectaculaires, et à contrario, l'autocensure dont font preuve certains médias à Taïwan participe du même mouvement. Enfin, je termine pour démonter une hypothèse qui est omniprésente dans les médias et dans les enceintes diplomatiques, qui minimise constamment la relation de domination hégémonique qu'exerce désormais la Chine sur Taïwan par le potentiel d'exemplarité que recevraient les institutions démocratiques taïwanaises. Certains parlent même d'un espèce de soft power taïwanais. D'abord, on a bien vu que les entrepreneurs taïwanais, ils ont cherché et ils ont trouvé. Pourquoi ils ont tellement investi en Chine? C'est parce qu'ils ont retrouvé l'environnement économique dans lequel ils avaient pu faire prospérer leurs affaires avant la levée de la loi martiale à Taïwan. Ils ne sont pas les seuls. Si les entreprises françaises délocalisent en Chine, c'est bien évidemment parce que les coûts de production sont plus bas, parce que la législation sociale est moins développée et la législation environnementale moins développée. Bon. Les Taïwanais ont encore plus misé là-dessus. Mais surtout, je pense que les tenants de l'hypothèse de l'exemplarité oublient que depuis quelques années le multipartisme à Taïwan et le terreau de la stratégie de division et de cooptation qui est poursuivie par Pékin. Et ils oublient aussi que dans l'hypothèse de changement profond en Chine, les forces de résistance à Taïwan au pouvoir central chinois qui se multiplient, comme je viens de dire, ne s'agrégeront pas nécessairement aux forces de résistance en Chine populaire. Voilà. Merci beaucoup.
Bonjour. J'aurais voulu avoir quelques informations sur les problèmes nationalistes, justement, qui se manifestent dans les régions périphériques, non insulaires, mais plutôt périphériques, ce qu'on pourrait appeler les marches, comme du temps de l'Empire carolingien, en particulier des Ouïghours, dont un des, disons, représentants est emprisonné depuis 2 mois et pour à perpétuité. Est-ce que les informations ne sont pas très développées en France?
Oui, alors la problématique ouïghour est complètement différente, bien sûr. Néanmoins, le ouïghour est victime d'une colonisation chinoise, d'une colonisation Han, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de populations chinoises qui sont envoyées au Xinjiang pour inverser l'équilibre démographique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la question ouïghour doit être traitée avec la question des États d'Asie centrale et le soutien apporté par certains États d'Asie centrale, certains mouvements d'Asie centrale aux résistants ouïghours, doit être également relié à la diaspora ouïghour qui finance un certain nombre de choses. Il y a un doctorant qui a soutenu sa thèse il y a 2 ans sur cette question, mais qui malheureusement ne peut plus se rendre maintenant au Xinjiang pour enquêter. C'est très très difficile. La question ouïghour alimente le nationalisme chinois, mais de façon très traditionnelle. Mais ça peut également être relié à la question de Taïwan, en ce sens que où la question de Taïwan peut être reliée à tout ça. C'est-à-dire que il n'est pas question pour le pouvoir central chinois de laisser Taïwan devenir indépendant, parce que ça ouvrirait la boîte de Pandore à la question du Tibet, à la question du Xinjiang, etc. Juste une question, c'est que le gouvernement taïwanais a toujours apporté un soutien aux dissidents ouïghours, mais depuis le rapprochement entre le Parti communiste chinois et le Kuomintang, il est beaucoup plus difficile pour la présidente du Congrès mondial ouïghour, par exemple, d'avoir un visa pour aller à Taïwan. Ça, c'est manifeste.
Je voudrais vous poser exactement la même question qui vient d'être posée par rapport au Tibet. Oui. Quelles sont les relations actuelles des autorités chinoises avec le peuple tibétain? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Là, c'est pareil. Il y a un mouvement de colonisation qui fait que bientôt le rapport démographique va être très défavorable au Tibet. Et les répressions policières se multiplient au Tibet. Voilà. Ah non, non seulement il n'y a pas d'évolution positive ni au Xinjiang ni au Tibet, mais il n'y a pas d'évolution positive en ce moment en Chine depuis l'arrivée de Xi Jinping. C'est-à-dire que les libertés publiques n'ont jamais été protégées en Chine, mais enfin je veux dire il y a de moins en moins de liberté d'expression, y compris certains universitaires chinois maintenant ont du mal à obtenir des visas pour aller à l'étranger s'ils veulent y aller, même s'ils sont invités dans un colloque, en général ils finissent par obtenir leur visa, etc. Mais c'est beaucoup plus difficile pour eux de se rendre individuellement à l'étranger en ce moment. Ça dépend de la nature du colloque, bien sûr. Mais enfin, si c'est un colloque sur une question un peu sensible, ça va être plus problématique. Ça va jusque-là, oui.
Oui, Taïwan, c'est une île, d'accord. Mais est-ce qu'il y a un domaine maritime qui est reconnu comme pour les autres pays? Et dans ce cas, est-ce que le domaine maritime de Taïwan pose des problèmes à la Chine? Et au-delà, j'aimerais connaître un petit peu, je dirais, les différences de revendications en termes de, d'étendue maritime avec la Chine, entre autres au niveau des îles qui se trouvent à mi-chemin entre... Alors, bon, bien sûr, il y a les deux îles à côté de Xiamen et de Fuzhou,
oui.
Mais je dirais les îles qui se trouvent à mi-distance entre le Japon et la Chine,
oui.
Et qui, disons, pourraient être l'origine d'un conflit éventuel.
Oui. Alors, pour les, la République de Chine et la Chine populaire ont exactement les mêmes revendications sur les îles Senkaku de Utai, qui se trouvent entre Taïwan et le Japon. Et exactement les mêmes revendications pour les îles dans la Chine de mer méridionale qui sont également revendiquées par les Philippines, par le Vietnam, etc. Il faut savoir aussi que c'est à Taipei que se trouvent tous les traités sur lesquels s'appuient aussi bien les Chinois de Chine populaire que Taïwan pour revendiquer ces îles, puisque ces conflits ne datent pas d'aujourd'hui. Alors, pour des raisons de sécurité, alors évidemment, la Chine étant ses revendications en termes d'eau territoriale au-delà de Taïwan, mais pour des raisons de sécurité, parce que sinon ça serait la guerre, dans la pratique, la ligne médiane du détroit de Taïwan, aussi bien pour ce qui concerne l'espace aérien que pour ce qui concerne l'espace maritime est respecté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la piraterie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des... Bon. Mais la marine chinoise et l'aviation chinoise respectent la ligne médiane du détroit de Taïwan. Il est très très rare, il y a des incidents de temps en temps, il y a des chasseurs chinois qui rentrent dans l'espace aérien taïwanais, de même qu'il arrive que des bateaux de guerre franchissent la ligne médiane, mais c'est très rare parce que pour des raisons de sécurité, parce que c'est immédiatement la guerre. Alors, en ce qui concerne les îles Senkaku, Diaoyutai, qui sont à peu près, je dirais, vers le haut de oriental là sur la carte. La question se pose entre Taïwan et le Japon en termes de droits de pêche. Alors évidemment, c'est une revendication nationaliste et régulièrement, il y a des nationalistes au sens Kuomintang du terme, ou même des nationalistes taïwanais, c'est-à-dire des indépendantistes taïwanais, qui font des expéditions sur ces îlots, qui vont planter un drapeau, etc., comme le font les Japonais. Bon, mais la question se pose aussi en termes de droits de pêche, puisque ce sont des eaux très poissonneuses et il y avait sans arrêt des incidents entre marins japonais et marins taïwanais. Et il y a un peu plus d'un an, un accord a été signé entre le Japon et Taïwan pour bien délimiter les droits de pêche entre les deux pays. Alors, oui, je n'ai pas oublié de répondre à votre question. En ce qui concerne Jinmen et Matsu, alors j'espère que j'ai... Oui, vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous voyez, oui. Kemoi et Matsu. Quand le régime nationaliste s'est replié en 1949, il a réussi à garder trois petits archipels. Le troisième, il a été les Américains l'ont forcé à, enfin les communistes l'avaient attaqué et les Américains l'ont forcé à rendre au milieu des années 50. Alors ces archipels Kemoi et Matsu, c'était des véritables bastions jusqu'à la démocratisation, parce que d'une part l'armée chinoise les bombardait un jour sur deux. Et d'autre part, c'était de là que devait partir la reconquête du continent. Après la démocratisation, alors même que c'était le Kuomintang qui était au pouvoir, je dirais que c'était en 91, 92, je crois, en 1992, le gouvernement avait eu l'idée de les rendre à la Chine. Et ça s'est heurté évidemment à l'opposition de la vieille garde nationaliste et
à une opposition de Pékin, parce que si le gouvernement taïwanais avait rendu ces îlots, ces petits archipels à la Chine, symboliquement, ça marquait beaucoup plus l'indépendance de Taïwan. Et curieusement, Pékin n'a pas du tout envie que ces îlots reviennent sous souveraineté chinoise, sous souveraineté effective, parce que la souveraineté, elle est revendiquée, mais qu'ils en prennent le contrôle effectif.
Oui, vous avez parlé tout à l'heure donc du rôle des investisseurs taïwanais quand ils sont allés donc dans la Chine continentale. Bon. Et surtout de leur relation avec les gouvernements locaux. Bon, ça fait vous un tas de choses. Les investisseurs proprement étrangers, alors non taïwanais, sont aussi sans doute des relations avec le gouvernement locaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce qu'il y a des différences dans ces relations entre les uns et les autres, quoi? Comment ça peut se passer ici? Voilà, merci.
Il n'y a pas... sur le papier, effectivement, tout investisseur est obligé d'avoir des rapports avec les bureaucrates locaux. La différence, c'est d'une part que les étrangers relèvent du ministère des Affaires étrangères. Il faut savoir que le ministère des Affaires étrangères a des antennes dans toutes les municipalités. Pas les plus petites, bien sûr, mais enfin dans toute municipalité de quelque importance, il y a un bureau du ministère des Affaires étrangères. Alors que les Taïwanais, eux, ne relèvent pas de ces bureaux-là. Eux, ils relèvent du bureau des affaires taïwanaises. Il y a en Chine, vous savez, tout est dédoublé. C'est-à-dire que vous avez la structure de l'État et vous avez la structure du Parti communiste. Donc il y a un bureau des affaires taïwanaises au niveau central, au sommet de la hiérarchie du Parti communiste, et un bureau des affaires taïwanaises au niveau du Conseil d'État, le Conseil d'État étant l'équivalent du gouvernement chinois. En fait, en gros, ces deux bureaux des affaires taïwanais sont pratiquement fondus, et il y a au niveau des municipalités, des bureaux des affaires taïwanaises, dont relèvent ces investisseurs locaux. Donc ils ont, et les bureaucrates de ces bureaux des affaires taïwanaises sont partout, c'est-à-dire qu'ils sont sous contrôle, les Taïwanais en Chine. Par exemple, quand ils ont pu ouvrir des écoles avec le cursus taïwanais pour leurs enfants, les manuels et les professeurs étant envoyés de Taïwan, les manuels étant caviardés, bien sûr. Il n'est pas question qu'on voit le mot à Taïwan, la monnaie, c'est le yuan. Mais le symbole, c'est le dollar, c'est le nouveau dollar taïwanais. Donc le symbole, c'est New Taiwan Dollar avec le dollar, le S barré. Bon, donc il n'est pas question de voir dans un manuel scolaire envoyé de Taïwan en Chine, dans une école pour enfants chinois, ce symbole NT dollar. Donc c'est caviardé. Bon, ça c'est une chose. Donc ils sont beaucoup plus soumis d'une certaine manière à la bureaucratie locale. Mais en même temps, comme ils ont ils vont beaucoup plus facilement au restaurant, ils ont quand même des rapports à cause de la langue beaucoup plus faciles avec ces bureaucrates, ils négocient beaucoup plus avec ces bureaucrates locaux. Négociations qui peuvent être parfaitement légales, mais qui quelquefois vont jusqu'à obtenir des passe-droits.
Si j'ai bien compris, à la faveur des échanges économiques, il y a un certain équilibre qui s'est établi entre Taïwan et la Chine. À l'heure actuelle, jusqu'à maintenant, la Chine continentale a eu besoin de Taïwan pour son économie, autant que de Hong Kong. Actuellement, et au regard de la puissance économique chinoise, est-ce que cet état va perdurer? Autrement dit, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur les perspectives de l'équilibre politique à Taïwan?
Oui, alors j'ai pas eu le temps de le dire, et je vous remercie de me poser cette question, parce que ce qui est complètement paradoxal, c'est que ces accords qui ont été signés depuis 2008 ont été signés à un moment où les entreprises taïwanaises qui en ont les moyens se retirent du marché chinois. C'est-à-dire que, en fait, bon, toute la première vague de délocalisation, les entreprises ont investi sur le littoral chinois. Ensuite, elles ont été concurrencées par... Il y a une hausse des coûts de production sur le littoral chinois, d'une part, et d'autre part, elles sont de plus en plus concurrencées par des entreprises chinoises elles-mêmes. Et donc, beaucoup d'entreprises n'ont le choix soit de relocaliser beaucoup plus à l'intérieur de la Chine leur entreprise, pour bénéficier de coûts de production moindres, soit d'investir dans le secteur tertiaire, celles qui en ont les moyens. Maintenant, il y en a beaucoup, par exemple, qui étaient qui travaillaient dans le secteur électronique et qui maintenant investissent dans l'hôtellerie, dans les hôpitaux, mais encore faut-il en avoir les moyens. Soit de délocaliser leurs entreprises carrément beaucoup plus loin, en Asie du Sud-Est ou au Bangladesh, enfin voilà. Soit de revenir à Taïwan. Et alors depuis 2007 et encore plus depuis je crois que c'est 2011-2012, le gouvernement taïwanais subventionne certaines entreprises pour qu'elles réinvestissent à Taïwan. Mais évidemment, ils ne subventionnent pas n'importe lesquelles. Ils subventionnent celles qui produisent des valeurs à très haute, qui ont une production à très haute valeur ajoutée. Donc, il y a une paupérisation terrible maintenant d'une toute une frange de ces investisseurs taïwanais en Chine. Et j'ai absolument pas eu le temps de parler de ça, bien sûr, mais le stéréotype de l'entrepreneur taïwanais en Chine, c'est quelqu'un qui a fait réussite, etc. Or, ce stéréotype n'est qu'un stéréotype parce qu'il y en a énormément qui ont fait faillite aussi en Chine. Et il y a toute une frange parce que ces Taïwanais en chinois, on les appelle les Taishang. Tai pour Taïwanais, Shang, ça veut dire le marchand, le commerçant, etc. Bon. Alors, au départ, c'était effectivement, c'était comme ça qu'on désignait les entrepreneurs taïwanais en Chine. Mais cette population taïwanaise en Chine, maintenant, il n'y a pas que ces fameux Taishang. Il y a aussi des étudiants, il y a aussi toutes les professions libérales qui sont allées là-bas. Enfin, c'est un must. De la même manière qu'en France, c'est un must, un peu pour un étudiant d'aller voir ce qui se passe en Chine, ça fait bien sur sa carte de visite, sur son CV, etc. C'est exactement la même chose pour les Taïwanais. Mais il y a toute une frange de la population taïwanaise qui est ce qu'on appelle les vagabonds taïwanais. C'est-à-dire, en fait, c'est les clochards taïwanais. Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas revenir à Taïwan, qui ne reviennent pas à Taïwan pour deux raisons. Parce que d'abord, ils ne veulent pas avouer qu'ils ont fait faillite en Chine. Et puis ensuite, leur maigre subsistance leur permet de... Leur très très maigre revenu leur permet de subsister en Chine, alors qu'ils ne pourraient même pas subsister à Taïwan, où la nourriture, tout est plus cher, bien évidemment. Nous ne parlons pas du logement. Oui, c'est ça. Non, c'est ça qui est assez paradoxal. C'est que, si vous voulez... Et en fait, voilà, quand je disais aussi que ces accords allaient creuser les clivages sociaux à Taïwan, et c'est là où c'est important de voir que le Kuomintang a toujours été le parti des grands patrons, c'est que tout ce mécanisme de négociation est en fait au détriment de la classe moyenne taïwanaise, qu'elle soit en Chine ou qu'elle soit à Taïwan. Je pense, parce que la pression militaire chinoise est suffisamment forte pour que Taïwan, même si le DPP revient au pouvoir, ne proclame son indépendance. Ça, c'est une chose. Ensuite, c'est pas du tout dans l'intérêt des Chinois d'avoir un conflit militaire avec... Parce que du coup, si vous voulez, si Taïwan déclare son indépendance, la Chine réplique, mais les Américains n'interviendront pas. Si c'est les Chinois qui interviennent militairement à Taïwan, à ce moment-là, les Américains arrivent immédiatement. Ça s'est passé en 1996. En 95-96, c'est justement la perspective de la première élection au suffrage universel direct du président de la République. C'était la dernière grande réforme du processus de démocratisation. Il y en a eu par la suite, bien sûr. Enfin, comme... partout, une démocratie, ça c'est... Il y a des processus démocratiques, il n'y a pas de démocratie en soi. Mais la dernière grande réforme, c'était l'élection du président de la République au suffrage universel direct, parce que jusque-là, il était élu par une assemblée, il était élu de manière indirecte. Et cette élection du président de la République au suffrage universel direct, ça symbolisait très 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 fort l'indépendance de fait de Taïwan, et Pékin était contre cette réforme. Il a voulu... Et les Chinois ont voulu dissuader l'électorat de se rendre aux urnes en effectuant des tirs de missiles à portée des côtes. Et ça n'a pas du tout dissuadé l'électorat taïwanais. Et ces tirs de missiles ont décidé, les Américains, envoyer quand même deux porte-avions dans la zone. Donc on voit très bien que c'est, si. Donc je pense que c'est de l'intérêt de personne qu'il y ait un conflit. Et en plus, comme je le disais, en ce moment, on est vraiment dans une relation d'hégémonie chinoise à Taïwan. On est tout à fait dans un schéma très gramscien, quoi. C'est-à-dire que quand il y a, enfin, l'hégémonie ne va pas sans coercition. Il y a le volet coercitif, mais aussi le volet hégémonique. Et le fait que le politique à Taïwan sans doute va se nouer autour d'une plus ou moins grande résistance au pouvoir central chinois et non pas autour de la question de la réunification et de l'indépendance, c'est tout à fait dans l'intérêt de Pékin.
Une dernière question.
Oui, bonjour. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les relations conflictuelles entre le Japon et la Chine ?
Oui. La normalisation entre la Chine, parce que si je remets ça dans la suite de ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand même, quand les nationalistes se sont repliés à Taïwan après, enfin quand ils ont repris le contrôle, quand Taïwan est revenu sous souveraineté chinoise en 1949, et que les Taïwanais, ce que j'ai oublié de dire, les Taïwanais étaient très contents de revenir sous souveraineté chinoise et que le colonisateur japonais parte. Mais à la suite du massacre de 1947, les Taïwanais ont aussitôt réévalué la colonisation japonaise, immédiatement. Et quand les nationalistes ont débarqué, j'ai l'air de m'éloigner de la réponse que vous attendez sans doute, mais je vais y venir. Quand les nationalistes ensuite se sont repliés à Taïwan, il y avait deux mémoires qui s'opposaient radicalement. C'est-à-dire que les Taïwanais, évidemment, avaient été enrôlés dans l'armée impériale contre la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale, mais avaient réévalué la colonisation japonaise, alors que les Chinois qui débarquaient à Taïwan avaient vécu les exactions de l'armée japonaise en Chine. C'est plus compliqué que ça. C'est quand même plus compliqué que ça parce qu'il y a quand même eu beaucoup de collaborateurs chinois, des japonais. Donc c'est plus compliqué que ça. Néanmoins, ce passé de la guerre sino-japonaise en Chine passe d'autant moins qu'il n'y a pas eu de retour critique ouvert sur la colonisation, sur la collaboration en Chine. Ouais. C'est normal, on est quand même dans un régime autoritaire. Il faut bien voir le temps que ça a mis en France pour qu'il y ait un retour critique quand même sur le régime de Vichy. Bon. Donc il n'y a pas eu de retour critique ouvert sur la collaboration avec les Japonais. Et donc les exactions commises par les Japonais en Chine sont instrumentalisées par le régime chinois quand il a besoin d'une petite poussée nationaliste pour se relégitimer lui-même. Et tout ça est aggravé par le fait que à Tokyo, certains dirigeants japonais n'arrangent pas les choses en allant régulièrement à ce mémorial Yasukuni où sont vénérés certains des grands criminels de guerre japonais. Donc tout ça, c'est une affaire d'instrumentalisation des pouvoirs centraux côté chinois, côté japonais. Maintenant, sur le plan individuel, les relations sont en général très bonnes. Il y a quand même beaucoup d'émigrants chinois maintenant au Japon. Beaucoup d'émigrants qui font partie de la classe moyenne chinoise qui migre au Japon. Donc voilà, il y a tout le côté instrumentalisation de la relation bilatérale quand c'est nécessaire. Et puis il y a quand même des relations qui sont très fructueuses sur le plan des échanges commerciaux, culturels.
Bah écoutez, je vous propose de conclure, de passer, ne pas oublier de passer à côté, prendre un verre avec nous. Et puis, merci beaucoup.
Merci beaucoup de m'avoir invité.